Eh bien, nous allons continuer, je crois, dans d'écouter Moharan, n'est-ce pas? On est en plein dans la cinquième Torah, la Torah He, et on est arrivé à Vezehu Shamour Rabotei, voilà, le Shabbat. Zochréou Mechad Beshabbat. Alors, de quoi s'agit-il? Rappelons-nous une chose importante. Il s'agit ici du. Bon, la Torah s'appelle Bachatzotzot du Kol Shofar. Et il y a ici une différence entre la prière qui se fait avant le verdict et la prière qui se fait après le verdict. Alors, la prière qui se fait avant le verdict est plus facile, la prière qui se fait après le verdict est plus difficile. Voilà, ça c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et on peut ressentir. Si on est avant le Xardine ou après le Xardine, c'est-à-dire verdict ou pas verdict, si on est quelqu'un qui a la joie de l'accomplissement des mitzvot. Voilà. Alors, c'est quoi la joie de l'accomplissement des mitzvot? Il s'agit de la joie que l'on ressent du fait même que la mitzvah que nous faisons est une mitzvah. Indépendamment de la récompense, du salaire que l'on peut recevoir pour la mitzvah. Voilà, donc c'est ce qu'il dit ici. Vezehu shamur rabotei nos zichronan uvracha beshabbat. À propos, c'est ce qu'on dit nos sages à propos du Shabbat. Zochreu me'echad beshabbat. C'est-à-dire, souviens-toi du Shabbat déjà depuis le premier jour de la semaine. Haïnu, ce qui veut dire. Chez Simchat Veta'anoug, Haolam Haba Shubichinat Shabbat, c'est quand on parle du Shabbat, on parle du Olam Haba. Et eh bien, on doit ressentir la plénitude du Olam Haba déjà au début de la semaine. Yargish Bechechet Yemeh Amaseh, on doit la ressentir, cette sainteté, cette plénitude du monde à venir, pendant les 6 jours de la semaine. C'est quoi les 6 jours de la semaine? C'est les mitzvot. Qui sont les actions qui sont à l'origine de la création des trois dimensions de l'être, qui sont l'espace, le temps et le psychisme. Alors vous voyez ici que ce que fait Rabbi Nachman, il fait tout un codage. C'est-à-dire, nous avons vu que celui qui a la joie véritable, c'est celui qui fait les mitzvot, même sans espérance du Olam Haba, parce que quand il accomplit la mitzvah, il est déjà dans l'atmosphère du Olam Haba. Ça me rappelle un enseignement de Manitou qui disait que la génération du désert, d'après Rabbi Akiva, n'a pas de part au Olam Haba. Comment est-ce qu'on peut dire de la génération qui a reçu la Torah qui n'ont pas de part au Olam Haba? Alors Manitou expliquait que ça voulait dire que la génération du désert a vécu déjà le Olam Haba. Ils l'ont, c'est-à-dire leur existence était une existence qui est celle du Olam Haba, donc ils n'ont pas part au Olam Haba, ils y étaient déjà. Eh bien, c'est un peu la même chose quand quelqu'un a une joie véritable dans l'accomplissement des mitzvot, c'est-à-dire qu'il est capable d'étudier, qu'il est capable d'accomplir les mitzvot avec le sentiment immédiat qu'il est déjà dans le paradis. C'est ça qui est dit par les Chachamim par allusion à propos du Shabbat, qu'il faut ressentir la joie du Shabbat, le délice du Shabbat, déjà depuis le premier jour de la semaine. Les jours de la semaine, c'est une manière de dire les mitzvot. Vezehu beyomot iten secharo. Oui, qu'est-ce qui se passe, David?
Arabe, le paradis, c'est comme on le dit, c'est la simcha ou c'est la simcha qui amène au paradis? Donc, qu'est-ce que c'est le paradis?
Le paradis, c'est la simcha.
Ah, donc, ok.
Donc, si je suis capable de ressentir une joie intense de l'accomplissement des mitzvot, c'est que je suis déjà dans le Olam Haba. C'est ça qu'il dit. Et c'est à propos de ça qu'il est dit, Vezehu, là, à nouveau, c'est une parabole, Beyomo titen secharo, le jour de son travail, tu lui donneras son salaire. Sheyehe secharo, mea mitzvot be'atzman. il reçoit. Une petite seconde, j'ai quelqu'un à la porte, là, je ne peux pas.
En attendant, j'en profite pour dire que vos micros, vous pouvez encore les rallumer. Et si vous avez une question, vous pouvez les allumer et les éteindre tout de suite après. Voilà. Le cours du Rav Cherki, on aimerait laisser les micros. Voilà, colle tout.
Ok.
Excusez-moi, c'était un ouvrier, je ne pouvais pas ne pas lui répondre. Beyomo, Kiten Secharo, il faut donner le salaire de l'ouvrier, justement, vous voyez, c'est l'occasion, le jour même. Alors, l'ouvrier, ben, c'est nous, nous sommes des ouvriers. Et en général, on attend le salaire après le travail. Mais ce que nous dit ici Rabbi Nachman, c'est qu'on peut avoir le salaire du fait même du travail. Il reçoit sa récompense de la mitzvah elle-même. Suite du verset, Velo tavo alav hashemesh. Il ne faut pas attendre le coucher du soleil. Ça veut dire, Shelo yaase a mitzvot bishar olam haba. Il ne fait pas les mitzvot pour recevoir le monde à venir, Shei achar biatimsho, qui est après le coucher de son soleil, achar moto, après son décès. C'est-à-dire, quand j'accomplis les mitzvot, je suis déjà, je n'ai pas besoin d'attendre le coucher du soleil, c'est-à-dire le jour de ma mort, pour recevoir quelque chose après ma vie. Eh bien non, je reçois le jour. Voilà. Donc, ça c'était, on a fini avec ça, le deuxième passage de la Torah. Maintenant, nous allons parler ici du cœur. Du cœur et des tonnerres et des éclairs. Il y a un texte de la Gemara dans Brachot qui dit que le tonnerre a été créé pour redresser la torsion du cœur de l'homme. C'est-à-dire, ce que suppose la Gemara, c'est que nous sommes tordus. Chacun est plus ou moins tordu. Et pour rétablir la droiture, on a besoin pour ça des coups de tonnerre. Le coup de tonnerre nous ébranle. Alors, il y a des coups de tonnerre physiques. Il y a une bénédiction qu'on fait quand on entend le tonnerre. Il y a une bénédiction qu'on fait quand on voit les éclairs. Et il y a également un tonnerre intérieur. Ce tonnerre intérieur, c'est un ébranlement de l'être qui fait qu'on se redresse. Une des mitzvot qui sont faites pour justement rétablir cette droiture, c'est ce qu'on appelle la sonnerie du chauffard. C'est pour ça que tout ce texte tourne autour de la sonnerie du chauffard, mais ce n'est pas seulement le seul élément. Alors, je reprends ici. Vyaïkar, alors, pour comprendre de quoi il s'agit, alors on va parler du cœur, on va parler du tonnerre et des éclairs. Vyaïkar asimcha hu balev. L'essentiel de la joie est dans le cœur. Comment on le sait? Que Moshe Katouf, ainsi qu'il est dit, Natata Simcha Belibi, tu as donné de la joie dans mon cœur. Alors, vous voyez, ça c'est extraordinaire chez Rabbi Nachman, même des choses qui sont des expressions communes, il amène un verset pour le dire. J'ai dit que la joie c'est dans le cœur. Eh bien, sache qu'il y a un verset qui dit que la joie est dans le cœur. Veyi efchar la lev bismoach, mais le cœur ne peut se réjouir. Il ne peut pas se réjouir tant qu'il n'a pas, il ne s'est pas débarrassé de la torsion qu'il y a dans son cœur. Il doit avoir un cœur droit. C'est alors qu'il y a la joie. Ainsi qu'il est dit, ou l'yishrelev simcha. La joie est pour ceux qui ont le cœur droit. Alors, bon, il faut essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire de manière plus rationnelle. Ça veut dire que je ne suis pas heureux quand je suis tordu. Et je suis heureux quand je suis droit. Pourquoi? Parce que la droiture fait voir les choses dans leur ensemble. Ce qui fait souffrir souvent, c'est le fait qu'on voit les choses de manière partielle. Et la partialité, c'est la représentation que j'ai du monde, cette partialité vient du fait que j'ai en moi quelque chose qui se confine, qui se concentre sur un seul point, mon intérêt personnel, on m'a mal parlé, il me manque de l'argent, j'ai un problème de santé. Tout cela fait que la droiture du cœur se tord. Et donc, je ne peux pas voir la joie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire disparaître les torsions? Vakmimiyut shebalev et la torsion du cœur, mafshitin, on la redresse, cette torsion, aliédé re'amim, par des coups de tonnerre. Kemo she'amu chachamenu zibronam bibracha, comme on dit nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction. L'onivreu re'amim, et là les fachettes akmimiyut shebalev. Le tonnerre n'a été créé que pour redresser la torsion du cœur. Ore'amim, et c'est quoi les tonnerres? Ibrinat kol she'adam motzi bechoar bitfilato. C'est la voix que l'homme fait entendre puissamment dans sa prière. Umize na'asa re'amim. Et c'est de là que viennent les coups de tonnerre. C'est-à-dire, vous voyez, vous pensez que le tonnerre, ça commence par les nuages, par l'électricité qu'il y a dans les nuages. Eh bien non, pas du tout. Ça commence par le fait que vous avez prié puissamment. Vous avez fait entendre un coup de tonnerre. Qui ita bazoar, il amène à ce propos un texte du Zohar. Kad kala nafik ve'ara ba'uve mitra, lorsqu'une voix sort et s'éveille dans l'épaisseur dans les nuages qui donnent la pluie, Ishtema Kala Livriata, c'est alors que se fait entendre une voix chez les créatures, Veda Inun Re'amim. Et c'est ça qu'est le tonnerre. Et en fait, il y a un parallèle entre le phénomène physique et le phénomène psychique. Le phénomène psychique, c'est le désir c'est une prière qui veut briser les écrans. C'est-à-dire, si vous avez besoin de prier pour quelque chose, s'il y a quelque chose en vous qui est barré, il y a une sorte de barrage qui vous empêche de passer. Le cri dans la prière, c'est une manière de redresser cette torsion et d'accéder donc à la droiture. Maintenant, je vois que Raya El Darahi voudrait poser une question, allez-y, posez-la.
Quand vous dites que le coup de tonnerre, c'est la voix que l'on fait entendre puissamment dans sa prière, mais de quelle prière? Parce que la prière, si on prend la Shmoneh Esrei, justement, on ne parle pas, enfin, on doit à peine s'entendre.
Oui. Alors,
si on prend une prière.
Oui, c'est dans toute prière. Parce que dans toute prière, il y a quelque chose de puissant. C'est-à-dire, c'est comme on dit par exemple, celui qui répond Amen Yehe Shemer Rabba de Chol Kocho, celui qui répond dans le Kaddish avec toute sa force. Alors, certains commentateurs ont dit, c'est quoi toute sa force? Toute la force de son intention, de sa kavana. Donc, on peut crier silencieusement. D'accord? On peut dire, voilà, j'ai prié, j'ai crié. Ah oui, mais je ne t'ai pas entendu crier. Oui, bien sûr, j'ai crié silencieusement. Alors, donc, ils amènent le texte du Zohar. Maintenant, Vikara Re'amim Hem Migevurot. L'essentiel des coups du tonnerre vient de la rigueur. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, il amène ici un verset de Yov. Veram gevurotav midbonan, qui peut entendre, qui peut concevoir la puissance de son tonnerre. Donc on voit qu'ici le mot gevura est employé à propos du tonnerre. Ubishulze anumevachim, c'est la raison pour laquelle la bénédiction que l'on fait pour le tonnerre, shekocho ugvurato maleolam, c'est-à-dire celui dont la force et la puissance remplissent le monde. Et la puissance, c'est la force, la puissance. C'est lorsqu'un homme fait entendre sa voix très puissamment. Ve'akol haze pogea ba'ove mitra. Et cette voix rencontre les nuages pluvieux. Haïnou bechinat mochin. C'est quoi les nuages qui donnent la pluie? Eh bien, ce sont les mochin. Alors, c'est quoi les mochin? À nouveau, une expression kabbalistique signifie un entendement de la vie intérieure. C'est ça le mochin. Mochin, pluriel du mot moar, en araméen, moar, le cerveau. Et la compréhension profonde que l'on a des choses, c'est ça les mochin. Alors, il y a souvent chez les chassidim, on parle du fait que le rabbi, dans telle ou telle situation, avait des mochin extraordinaires, lumineux. Et dans une autre situation, il a perdu ses mochin. Par exemple, à propos de Rabbi Nachman de Breslav lui-même, nous avons parlé de ça la semaine dernière. On raconte que lorsqu'il est arrivé à Istanbul, il a perdu ses mochin, il est devenu un simple juif. D'accord? Eh bien, c'est ça. Donc, les mochin, quand il y a le coup de tonnerre qui vous frappe, eh bien, vous êtes alimenté brusquement par une compréhension des choses que vous n'aviez pas jusqu'à présent. C'est ça, les mochin dont il parle. Chez Misham, Yordim, Tipin, Timpin. Parce que de là viennent des petites gouttes les unes après les autres. C'est quoi des gouttes? C'est-à-dire, quand vous rencontrez une grande idée, eh bien, cette idée, finalement, commence à agir sur vous, mais graduellement. C'est-à-dire, parfois, on comprend des choses tout de suite, mais parfois, on comprend graduellement, petit à petit, tipping, tipping. Kemoshekato bazoar, ainsi qu'il dit dans le Zohar, Be'er maim chaim venozlim min levanon, à propos du verset, un puits d'eau vive qui s'écoule depuis le Liban. Alors, c'est quoi le Liban? Min libuna de mocha, de la blancheur de la cervelle. C'est-à-dire, les mochi. Urshepoge abaovi mitra, et lorsque sa voix rencontre les nuages qui donnent la pluie, az ishtema kala livriata, c'est alors que se fait entendre la voix, une voix pour les créatures, haïnu bechinat reamim, c'est-à-dire ce qui ressemble au tonnerre, vezehu, c'est pour ça qu'il est dit, kol ramcha bagalgal, la voix de ton tonnerre se fait entendre dans la sphère. C'est quoi la sphère? Haïnu begalgalta democha. Il s'agit du crâne dans lequel se trouve le cerveau. Kad ha'ara begalgalta. Et lorsque ça se fait entendre, ça s'éveille dans le cerveau democha, dans la cervelle. Na'asa me'akol re'amim ve'nishma libriata. La voix devient du tonnerre qui se fait entendre chez les créatures. Alors, bon, pour bien comprendre ce qu'on vient de lire, il faut comprendre que Rabbi Nachman de Breslav parle disons, dans un style associatif. C'est-à-dire, il nous parle du tonnerre, il nous parle de la pluie, d'une voix qui se fait entendre, etc. Mais en fait, toute son intention n'est pas de la description uniquement du phénomène physique du tonnerre, mais du phénomène intérieur. Il y a un tonnerre qui rencontre qui est le fruit de la prière intense qui amène une connaissance, les mochin, et cette connaissance transforme le cerveau. Pas le cerveau en tant qu'organe, la conception que l'on a du monde. Voilà. En d'autres termes, essayons d'être plus rapide, il faut prier pour comprendre. Voilà. Il aurait pu le dire en une phrase, n'est-ce pas? Oui, mais c'est tellement beau, la manière dont c'est. Vézé, et c'est pour ça qu'il est dit, Pi yedaber chokhmot. Ma bouche parle de sagesse. Haïnu hadibur ayotse mipi, c'est-à-dire que la voix, la parole qui sort de ma bouche, c'est-à-dire la prière, pogea bachokhma, rencontre la sagesse, haïnu begalgalta democha, c'est-à-dire dans la cervelle. Vehaïn valiedeze veagut libit evunot, et c'est comme ça que mon cœur est capable de donner un entendement. Haïnu shenit orer aliedeze haraam, nit orer alev, parce que il s'éveille grâce à ce tonnerre qui va éveiller le cœur, que Moshe Amrou, Kol Meorer Akavana, ainsi qu'on a dit, la voix fait éveiller l'intention. Voilà. C'est-à-dire, et bon, alors, évidemment, c'est un peu difficile d'introduire tout ça dans le Shmoné Esré, comme vous avez si bien dit, le Shmoné Esré qui est silencieux. Alors, ça explique pourquoi est-ce que les chassidim de Braslav, parfois, jugent nécessaire de sortir dans la forêt et de crier. Parce que le cri, c'est une ouverture du cœur qui, en fait, reçoit un coup de tonnerre. Et c'est pour ça que nos sages ont dit « Mi sheyesh bo yirat shamayim devarav nishmaim » « Celui qui a la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. » Je ne peux pas me retenir de vous raconter une histoire à propos du Rav Tzvi Yehuda Kouk qui un jour est arrivé à la yeshiva en larmes et disant « Je n'ai pas de yirat shamayim, je n'ai pas la crainte du ciel. » Alors les élèves lui demandent « Mais pourquoi est-ce que vous dites ça, maître ?» Il répond « Parce que j'ai dit de faire telle et telle chose et on ne m'a pas écouté. Or, les Chachamim ont dit que celui qui a la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Or, si vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, c'est donc que je n'ai pas la yirat shamayim. » Vous imaginez tout de suite le résultat. Finalement, on a fait ce qu'il a dit. Revenons maintenant au texte. Alors, donc, pour ça que nous sages ont dit que celui qui a la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Qui mishiyeshbo yira, parce que celui qui a la crainte, il faut bien comprendre, chez les chassidim, le mot la crainte, c'est pas la peur. La crainte, c'est la révérence. C'est-à-dire la sensibilité que l'on a par rapport aux valeurs. Kolona asar e'amim, sa voix devient des coups de tonnerre. Kira misitra de Yitzhak, parce que le tonnerre est associé à Yitzhak. Kemoshekatu. Yitzhak, c'est celui qui est de nos ancêtres, il est celui qui représente la Gevura, la puissance. Kira misitra de Yitzhak, parce que le tonnerre vient du côté d'Yitzhak. Kemoshekatu veram Gevurotav, ainsi qu'il est dit, là, le tonnerre vient de la puissance. Valier des aides, varav nishmaim, et c'est comme ça que ces paroles sont entendues. Hainu mishtame akala livriata, c'est-à-dire que sa voix arrive aux créatures qui taman talia shemia, parce que c'est de là que vient l'écoute, que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit. Hachem, shamati shimacha yareti. C'est un verset dans Habakkuk qui dit, Éternel, j'ai entendu ton écoute et j'ai eu la crainte. Les épérouches, et c'est pour ça qu'il est dit, Gibore Koar Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro, ceux qui ont la puissance pour accomplir sa parole, pour entendre la voix de sa parole. Bon, alors là, vous savez, bon, c'est toute une série de sources qui viennent étayer le propos de Rabbi Nachman. Et il dit, tout ce que j'ai dit, sachez, c'est écrit dans Habakkuk, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans Tehilim, etc. Ita Bazohar, et il est dit dans le Zohar, Zachyan le Mishma Kalin Milaela, on mérite d'entendre des voix qui viennent d'en haut. Haïno Aliyede Agivurot na Asereamim, parce que grâce à la puissance viennent les tonnerres, Valideze Alev Shomea, et c'est ainsi que le cœur entend. Vehaïno, Vehagut Libit Evunot, et c'est pour ça qu'il est dit, attendez, c'est à nouveau mon ouvrier là, une seconde. Excusez-moi, c'est encore des histoires de construction. Bon, Ve'ainu ve'agut libit evuna, c'est pour ça. Ah, Raf, pouvez-vous revenir sur la façon dont les chassidim comprennent le mot ira? Mais bien sûr! Le mot ira, d'abord, il est important de savoir ce que ça ne veut pas dire. Ira ne veut pas dire la peur. Ira veut dire la crainte, c'est-à-dire la révérence, ou plus précisément la sensibilité aux valeurs. C'est-à-dire, quand je suis en situation de dire « Ah », je suis capable de comprendre, d'accepter des valeurs qui viennent à moi. D'accord ? C'est ça. À nouveau, nous avons ici Raya Eldari qui veut nous dire quelque chose.
Oui.
Allez-y.
Justement, au sujet du verbe, le verset de Rabba qui dit « J'ai entendu ta parole et j'ai été pris de crainte. »
Oui.
J'ai entendu au sens d'entendre avec son oreille ou au sens de comprendre. Et le fait de comprendre, du coup, c'est ce qui amène la crainte. Simplement le fait d'entendre comme on entend le tonnerre. Parce que si on entend avec l'oreille, alors c'est la peur. C'est plus lié. Le tonnerre, ça fait peur.
Oui, mais attendez. L'oreille, c'est une oreille intérieure. C'est-à-dire, quand je prends conscience de quelque chose, il peut y avoir à côté de moi quelqu'un qui ne prend pas du tout conscience de la chose. J'ai entendu, lui n'a pas entendu. C'est-à-dire, quand on dit des oreilles, il s'agit effectivement de l'oreille intérieure.
Donc, la compréhension ou le ressenti, donc.
Oui, bien sûr, exactement. Exactement. Bon, continuons. Le texte a disparu, mais il y a réapparu. Le voilà. Urmo Shekatou, ainsi qu'il est dit, Venatat Aleavdecha Lev Shomea. Et ainsi qu'il est dit, tu as donné à ton serviteur un cœur qui entend. Et alors, ces paroles sont également entendues par les créatures. C'est pour ça qu'il est dit, pour entendre la voix de sa parole. Bon, tout ça, si on rentre dans le détail des différentes sources qui ont été amenées, ça veut dire ça veut dire tout simplement que il y a à partir du moment où il y a une ouverture qui se fait dans le cœur, alors non seulement il y a la joie, il y a également la crainte, et la crainte fait que on est capable d'entendre une voix d'en haut, c'est-à-dire de comprendre des choses, et c'est alors que les autres sont également capables de nous entendre. Veze bichinat kol ha-shofar. Et tout ça se retrouve dans la voix du shofar, dans le son du shofar. Pourquoi ? Parce que da shofar shel ha'il, parce que le shofar idéal, c'est celui qui est fait d'un bélier. Et lo shel Yitzhak, à cause du bélier d'Yitzhak, bechinat ram givurotav, ce qui correspond au tonnerre de sa puissance. Vezehu ashrei ha'am yodei teruah, et c'est pour ça qu'il est dit. Heureux est le peuple qui connaît le son du shofar. Yodea daïta. Il est dit ceux qui connaissent et qui ont la connaissance. Chiivga kol bamoar. Parce que la voix vient dans le cerveau. Bechinat ave matra. Qui est une manière d'être, c'est qui ressemble à un nuage qui donne la pluie. Veye bufrinat reamim. Et c'est ainsi que c'est comme s'il y avait un tonnerre en lui. Et si quelqu'un entend la sonnerie du shofar d'un homme qui est empli de crainte révérentielle, il n'aura pas à craindre toute l'année le tonnerre. Ça veut dire qu'il n'a pas à craindre le tonnerre, pas forcément le tonnerre physique. Il ne sera pas ébranlé. Kemo Shekatou, ainsi qu'il est dit, ça c'est dans la prière de Rosh Hashanah, Bekolot Uvrakim Alehem Nikleta, tu es apparu sur eux, c'est-à-dire sur les enfants d'Israël, par des voix et des éclairs, Uvekol Shofar Alehem Pofata, et c'est par la voix du shofar que tu t'es manifesté à eux, Shebekol Ashofar Ofi Alehem Kolot Uvrakim, parce que par la voix du shofar, il leur est apparu par des sons et des éclairs. Ah, bon. Maintenant, on va rentrer dans la manière de se préparer à cette écoute. C'est-à-dire, ce que nous a dit ici Rabbi Nachman, c'est très joli. Quand vient le tonnerre, alors le cœur s'ouvre, il se remplit de joie, et alors on est capable d'entendre, on est écouté par les autres. Très joli, mais Comment est-ce que je fais pour me préparer à cette réceptivité? Alors là, bon, ça c'est très classique de Rabbi Nachman, il faut s'éloigner de la sagesse profane. Aval tsarich lefanot et amochin michochmot chitzoniot mimachashavot zarot. Il faut débarrasser sa cervelle des sagesses extérieures et des pensées étrangères. Alors c'est quoi hein, les sagesses extérieures? Classiquement, c'est la philosophie. C'est-à-dire, on ne peut pas être prophète si l'on est philosophe. Et on ne peut pas être philosophe si on est prophète. C'est-à-dire, souvent on dit, les rabbins sont des philosophes du judaïsme. Une chose qui est certaine, c'est que les philosophes ne sont pas des rabbins. Alors peut-être que les rabbins ne sont pas des philosophes. En tout cas, Rabbi Nachman, bon, dans l'enseignement qu'il donnait à ses chassidim, était très strict là-dessus. Ne lisez pas tous ces livres dans lesquels il y a les sagesses extérieures. Remarque importante, Rabbi Nachman, lui, lisait ces textes-là. Il connaissait très bien la philosophie, aussi bien celle du Moyen-Âge que celle de son temps. Il était tout à fait conscient des mouvements de pensée qui se développaient autour de lui. Et c'est d'ailleurs, il le dit de manière très claire dans le chapitre 64, nous allons arriver bientôt, nous sommes dans le cinquième, donc il nous reste 59 chapitres pour y arriver. Rabbi Nachman dit que le tzaddik a le devoir d'étudier les sagesses. C'est-à-dire qu'on peut dire, chez Rabbi Nachman, c'est une pédagogie par rapport au public au sein duquel il agissait. Il enseignait la Torah et il comprenait que cette Torah ne pouvait être comprise que si le réceptacle mental de ses chassidim était débarrassé de la philosophie. Mais lui-même, évidemment, se confrontait à ces mouvements de pensée, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ces enseignements sont aujourd'hui tellement écoutés, parce que nous vivons une génération qui connaît très bien justement ces sagesses extérieures et ces pensées étrangères. Alors, c'est quoi ces sagesses extérieures, ces pensées extérieures, cette philosophie? C'est du hametz. Mais hametz. Ça veut dire quoi le hametz, hein? Hametz, ça veut dire ce qui fermente. Shelo yachmitz et chokhmato. Il ne doit pas fermenter, c'est-à-dire abîmer. Shelo yachmitz et chokhmato, on ne doit pas abîmer sa sagesse. Bechokhmot ritzoniot. Par des sagesses extérieures, ou veta avot, et par des passions. Kede, que chez Yotzi et Akol Vivga Bemocho, yitabed mimeno ram. Afin, c'est quand on est débarrassé de ce Hametz, c'est alors que lorsque on fera sortir, on fera entendre sa voix, et que cette voix rencontrera sa cervelle, alors pourra apparaître un tonnerre, la foudre. Aval, et chez Galgalta de Moha Atum Betuma, mais lorsque la cervelle est opaque à cause de l'impureté, que Moshe Katouv venit metem bam, ainsi qu'il est dit, vous risquez d'être fermé par eux, c'est-à-dire qu'il s'agit des aliments qui ne sont pas cachers, la Torah dit, vous serez souillés par eux. Mort le mot, nit metem, manque un aleph. On devrait dire, venit metem avec un aleph après le même. Mais quand c'est dit sans le Aleph, ça veut dire quand vous deviendrez opaque, atum, timtum, az en kolonishma, et alors sa voix ne se fait pas entendre. C'est-à-dire si je suis empli de pensées qui viennent des sagesses extérieures et des pensées étrangères, alors ma prière n'est plus une prière. Je deviens un philosophe. Gam yishmor yirato. Il doit également préserver sa crainte. Chez Mimeno Totsotakol, qui est à l'origine de la voix, que Moshe Katou Veram Gevurotav, ainsi qu'il est dit, le tonnerre de sa puissance. Chez Lo Yie Lo Yira Chitzonit, pour que sa crainte ne soit pas une crainte extérieure. C'est quoi une crainte extérieure? C'est une crainte infantile. C'est celui qui a peur de la punition, du châtiment. C'est justement ce que nous avons dit tout à l'heure, que ce n'était pas l'aïra. Quand les chassidim parlent de l'aïra, ils ne parlent pas de l'aïra ritsonite, la crainte d'être châtié. C'est au contraire la crainte qui est l'ouverture. C'est pour ça qu'il est dit. C'est pour ça qu'il est dit. S'il n'y a pas de sagesse, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Et s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Alors c'est quoi la sagesse? C'est la sagesse intérieure. C'est quoi la crainte? La crainte intérieure. Et donc il faut faire attention de ne pas être fermenté et donc entamé et abîmé par les sagesses qui viennent de l'extérieur. Il faut préserver la pureté originelle de son être de bon juif. Vezéou, et c'est comme ça qu'il va interpréter un texte bien connu dans Shabbat et Sanhedrin, Yarad Gabriel Venaatz Kanebayam. Gabriel est descendu et a planté un roseau dans la mer. Alors de quoi s'agit-il? Les Chachamim nous disent que lorsque le roi Salomon a épousé la fille du pharaon, alors c'était le début de la décadence. Vous comprenez, du temps de Shlomo, c'est le temps idéal, c'est l'apogée de la royauté d'Israël. Et déjà à ce moment-là commence le germe de la décadence. Et c'est la Guémara dit, lorsque s'est fait ce mariage entre Pharaon, entre Salomon et la fille du Pharaon, alors l'archange Gabriel est descendu et a planté un roseau dans la mer. Et autour de ce roseau se sont agrégées des alluvions. Et ces alluvions sont devenues le terrain sur lequel a été construite la ville de Rome. Et c'est Rome qui a détruit le temple de Jérusalem. Alors bon, c'est comme ça que c'est dit dans le Midrash. C'est amené dans le traité de Shabbat, traité de Sanhedrin. Et alors, le Rabbi Nachman va rentrer dans le détail. C'est quoi Gabriel? C'est quoi la mer? C'est quoi le roseau? Qu'est-ce que ça veut dire? Pirouche. C'est la conséquence des Gevurot. Il s'agit ici donc de la crainte extérieure qui vient de la superficialité des sagesses extérieures. C'est ça Gabriel. Yarad Gabriel, ça veut dire que quelque chose découle de la superficialité. Na'atz Kane, il a introduit un roseau. Beyam ha-chorma, dans la mer de la sagesse. Effectivement, la mer désigne souvent la sagesse. Et donc, quelque chose a été troublé dans la sagesse d'Israël. Kané, c'est quoi? Le roseau? Da bechinat kol ayotze mea kané. C'est ce qui ressemble à la voix qui sort de la trachée. C'est-à-dire ce qui sort de la gorge, qui s'appelle également kané. Aïnou, aliédé ishtal shelut agivurot. C'est par l'enchaînement de la givura, de la rigueur. Shi bechinat sosfita de dahava, qui est une sorte de chaîne d'or. Yirachitsoniut, qui est la crainte extérieure. Nishar akol na'utz batimat aserel. La voix est introduite et plantée. C'est comme Gabriel qui plante. Be'akimat aserel. La voix reste fixée dans l'opacité de l'intelligence. Ve'la ishtama divriata, et n'est plus entendue par les créatures. Ah bon, alors vous voyez, l'image est très belle. Il veut dire qu'il y a une sagesse pure et que cette sagesse est troublée par les sagesses extérieures. Ça entraîne une crainte extérieure. Et c'est donc une augmentation, une accumulation de Gevura, de rigueur, qui est appelée ici Yarad Gabriel. C'est Gabriel qui descend, ça veut dire il y a une abondance de Midat Hadin, de rigueur, et ça devient, et ça empêche la voix qui est appelée ici Kané, le roseau, de se faire entendre du sein. Parce que la mer de la sagesse a été troublée justement par ce roseau.
Rav Sherkev, j'ai une question.
Allez-y.
Et Il parle de quelqu'un qui a reçu, issu une identité, qui a reçu une base. Et nous sommes souvent à l'envers. Nous sommes imprégnés de cette sagesse ou de ces idées extérieures. Mm-hmm. Et comment on fait le retour?
Ah, très bonne question. Très, très bonne question. En fait, ce que vous dites, c'est que Rabbi Nachman parle dans une société de chassidim qui ont reçu une éducation purement juive et qui risquent d'être exposés à la culture générale. Or, notre génération, c'est exactement le contraire. Nous sommes issus de la culture générale et nous faisons des efforts pour entrer dans le judaïsme. Alors, est-ce que ça peut réussir? C'est ça votre question?
C'est ça.
Oui. La réponse est, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, que le tzaddik, lui, doit connaître la culture générale. Ce que faisait Rabbi Nachman de Roissav lui-même.
Oui.
Eh bien, ça veut donc dire que notre génération a le niveau du tzaddik.
Wow.
C'est-à-dire que, oui.
C'est-à-dire que nous sommes... Wow.
Oui, bien sûr, oui, absolument. Ça veut dire que, en fait, ce qui était vrai pour un individu, quelques individus du temps de Rabbi Nachman, c'est devenu le degré de notre génération dans son ensemble. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous fait confiance d'être capable d'être le tzaddik. Et ça veut dire que cet élément de pureté juive originelle existe à l'état, si vous voulez, nucléaire dans chacun de nous, mais ça se trouve. Et donc, ne vous en faites pas. Au contraire, nous sommes arrivés aujourd'hui à une génération encore plus élevée que celle de la société de Rabbi Nachman de Breslav.
Tada.
Merci. Voilà. Et donc, pour continuer, Ve'ikar lishmor mocho shelo yachmitz. Alors, que faire pour préserver sa cervelle pour qu'elle ne soit pas fermentée? Ve'zehu ge'ar hayat kane. Là, il y a ici un verset de Tehilim, de Tehilim 68, qui est effraye la bête qui... merci pour votre question, Félicia. Très, très bien. Et donc, Gear Hayat Kane, ça veut dire effraye la bête qui est dans les roseaux. Bon, alors, les commentateurs disent qu'il s'agit de l'hippopotame. Il y a des hippopotames qui sont dans les réseaux, dans les roseaux. Et alors, il faut effrayer l'hippopotame. D'accord? Merci pour ma réponse. Oh là là, c'est sympa. Bon, en tout cas, donc, il faut effrayer l'hippopotame. Alors, évidemment, Rabbi Nachman de Breslav, il ne va pas expliquer ça de cette manière. Il va nous dire, Ge'ar, ça veut dire effrayer. Comment est-ce qu'on fait pour effrayer? Eh bien, il faut pour ça, justement, le coup de tonnerre. Hayat Kane, la bête qui est dans la, qui empêche la voix. Parce qu'on a vu que le Kane, le roseau, veut dire également la voix qui sort de la trachée artère, de la trachée artère. Kedeita Bazohar, ainsi. Peut-on laisser les 10 dernières minutes pour des questions? Oui, mais nous sommes encore loin des 10 dernières minutes. Bon, Kidita Bazoar, Kane, Het. C'est-à-dire, le Zohar dit que le Kane, le roseau, il a autour de lui un Het. Het, Hayat. Hayat, c'est la bête. Mais c'est également la lettre chet, ça s'écrit de la même manière. Teshaber, il faut briser le chet. Veta ase mimenu he. Il faut transformer la lettre chet en la lettre he. Alors, la lettre chet et la lettre he, ça s'écrit presque la même chose. Avec ces différences que la petite barre à gauche dans le he, c'est comme un chet qui a été brisé. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut briser le chet et le transformer en he. Veta ase meotiot hametz. Matzah. Il faut que les lettres du mot Chametz, Chet, même Tzadik, deviennent les lettres de Matzah, même Tzadiké. Sans Chametz. Haïnou, Shelotach Mitz Chochmatecha. Ça veut dire que tu ne dois pas fermenter, laisser fermenter ta sagesse. Vezeu Leshon Ge'ar. C'est ça que signifie effrayer. Leshon Meriva, qui veut dire la lutte, le conflit. Ki Matzah, Leshon Meriva. Parce que le mot matzah signifie également dispute. Effectivement, en hébreu, le mot matzah désigne à la fois le pain azim, il signifie aussi la dispute. De tzadikaya avdin matsuta besitrin oharanin. Parce que les justes font une dispute avec l'autre côté. L'autre côté, c'est le mal. De là, yitkarevu les mishkana de gdusha, pour que les forces de l'autre côté ne s'approchent pas du sanctuaire de la sainteté. Haïnu, keshetishmor et trochmatra, c'est-à-dire lorsque tu préserveras ta sagesse, shelo yikanesbo chochmotritsoniot, pour ne pas laisser entrer les sagesses extérieures. Keneged, kene chochma, kene bina digdusha. Ainsi qu'il est dit, acquiert la sagesse, acquiert l'entendement de la sainteté. Or ici, le mot acquérir se dit kne, c'est-à-dire kane, c'est le roseau qui est la voie. Aliedeze tinatsel mibechinat hametz, c'est ainsi que tu seras sauvé de ce qui ressemble au hametz. Hametz, shehi sidra demota, qui est le côté de la mort, qui est deita mahmetzet, ainsi qu'il est dit dans le Zohar que le mot mahmetzet, qui veut dire le levain, taman sidra demota, c'est là que se cache la mort, parce que le mot mahmetzet, alors vous avez au milieu les trois lettres de hametz, chet, mem et tzadik, mais à droite et à gauche, vous avez mem et tav, qui veut dire met, le mort. Donc il faut savoir se disputer contre la tentation de la sagesse extérieure. Donc il faut pour cela une certaine énergie. Veta amin, et tu auras la foi qui kol matsuta omriva. Sheyesh ben atzadikim ashlemim, et c'est là que tu comprendras que toutes les disputes qu'il y a entre les tzadikim parfaits, alors on est parfois surpris de voir les tzadikim lutter entre eux. Alors dis non, non, ne t'en fais pas, quand tu vois les tzadikim de lutter entre eux, ils ne font ça que pour renvoyer les autres côtés qui sont les sagesses qui nous font du mal, etc.
On dirait qu'il y a la boulangerie.
Qu'est-ce que vous dites de la boulangerie?
Oui, parce que chametz, matzah, v'marmetzet.
Oui, tout ça, que c'est très intéressant pour les boulangers, effectivement.
Oui.
Oui. Vezé perouche, et c'est ça que signifie Ozen Shomat Torahat Chaim Bekerev Chachamim Talin. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Michelet, quand l'oreille entend la remontrance vivante, les remontrances vivantes, il peut passer la nuit chez les sages. Alors, c'est quoi passer la nuit? Talin, leshon teluna ou meriva, ce que veut dire également une plainte et une dispute. C'est-à-dire que le mot talin peut être compris également, c'est un jeu de mots, comme se référant à tluna, kesheata shome amerivot benatsadikim. Attendez, il y a ici une question. Bonjour, Rav. Alors, si notre génération se situe à un niveau ou je vais essayer de dire ça. Ouais. Si notre génération se situe à un niveau supérieur de celle de Rabbi Nachman et que nous disposons du potentiel nucléaire du tzaddik, pourquoi de nouveaux rabbins enseignent que notre génération est au niveau où nous étions à Mitzrayim, au 49e degré d'impureté, en route vers le 50e, et que c'est justement pour cela que nous sommes dans les talons du Mashiach Toda? Vous avez amené ici une preuve extraordinaire que je ne suis pas les rabbins en question. C'est intéressant. C'est-à-dire, parfois, on peut se tromper. On peut se dire, puisque lui, il est rabbin, que l'autre aussi, il est rabbin, alors peut-être que c'est le même. Non, non, ben, c'est pas le même. Voilà. Bon. L'eau. Bon. Que j'attache au même rivot de Benatsadikim, Teda, quand tu entends des disputes entre les tzadikim, tu comprendras, chez eux, mashmim, otra, torecha, al shepagamta, betipe, mochacha. En fait, on vient te faire une remontrance parce que tu as porté atteinte aux gouttes de ta cervelle. Chez Alzene Emar, kolbaya, lo yishuvun, dont il est dit, tous ceux qui y entrent ne reviennent pas. Velo yasigo, chotraim, et n'atteindront pas les chemins de la vie. Il s'agit donc des sagesse extérieure, de la philosophie. Chez Atta Davouk Bessitra Demota, parce que tu es collé au côté de la mort, Bichinat Hametz, qui ressemble au Hametz, Bichinat Yarat Gabriel, ainsi que les dit à propos de Gabriel, chez Veteda, chez Naatz Kane, et il faut comprendre que le roseau planté, Aïnou Chokhmot Ritsoniot Yutzim Beam Chokhmatra, ce sont les sagesses extérieures qui sont plantées dans la mer de ta sagesse. Mais si ta cervelle n'avait pas été atteinte, tu n'aurais pas entendu les disputes entre les tzadikim. Et leurs disputes est à ton service. Afin que tu reviennes de la mort à la vie, de chametz à la matzah, de la lettre chet à la lettre he, et que tu reviennes de la crainte mauvaise d'une voix abîmée, mechorma peguma lira tova, d'une sagesse abîmée à une crainte bonne, et koltov à une bonne voix, et chorma tova à une bonne sagesse. Pour chetishmor et mochacha mibrinat chametz shelo yatum, et lorsque tu préserveras ta cervelle du chametz, pour qu'elle ne soit pas, ta cervelle ne soit pas opaque, aza ishma kolcha begalgal techa, c'est alors que ta voix sera entendue dans ta cervelle, vit abed raam, et alors viendra le tonnerre, vit pachet akmimiyut shebelibra, et alors la torsion qu'il y a dans ton cœur se redressera, vastiske le simcha, c'est alors que tu arriveras à la joie, kemo shekatu, ou l'ishrelev simcha, comme il est dit, ceux qui ont le cœur droit ont la joie, vezé perouche, et c'est ça que veut dire le verset, ya'incha beseter raam. Je te répondrai dans le secret du tonnerre et je te purifierai par les eaux de Meriva, de la dispute éternellement. Mais Meriva, c'est-à-dire l'eau de la dispute, Zebrinat Matzah, c'est ça la Matzah, Brinat Mochin, qui t'amène la connaissance. Aliedeze, Naasa, Rehamim, c'est comme ça que se font les coups de tonnerre. C'est-à-dire, c'est un appel à l'abandon des sagesses extérieures pour être capable de redresser son cœur. Voilà. Et comme je l'ai promis à David Altar, il nous reste 10 minutes pour les questions, si c'est nécessaire. Alors, vous pouvez y aller, ne craignez rien.
Je peux poser une question?
Oui, allez-y. Allez-y, parlez. Je n'entends rien.
Mais quand on parle de Kol Vafra, de Kol Napshecha, il y a un autre élément que j'ai pas, qui n'entre pas dans cette définition, la Napshecha.
Oui.
Vous pouvez élaborer.
Et pourquoi vous parlez de Kol Vafra ou Kol Napshecha?
Parce qu'on parlait du cœur, on n'arrête pas de parler du cœur, je ne suis pas trop loin, alors ça
oui,
tombe
c'est
bien.
Vrai. Mais c'est le vrai, Napshecha, c'est. Oui, c'est vrai. Alors, Nafshecha, c'est un cas extrême, c'est-à-dire quand on est capable également de sacrifier sa vie pour les mitzvot, il y a des cas où on doit le faire, alors c'est ça le Bechol Nafshecha. Mais là, nous parlons, disons, du standard, de la vie de tous les jours dans laquelle on est simplement invité à la prière. Mais c'est ça Bechol Levavra. Les Nafshecha,
dans la vie de tous les jours, n'existe pas.
Du kol nafshecha, non, c'est afilu notel et nafshecha. C'est-à-dire, même si c'est la disposition à sacrifier sa vie, ça c'est tous les jours. Mais le fait, l'acte est assez exceptionnel, évidemment. Alors, vous avez ici Chaya Eldare. Alors, vous pouvez y aller.
Oui.
Hein, on vous entend.
D'accord. Moi, je vous ai laissé lire jusqu'au bout la fin. Je pensais que. On serait arrivé avec l'histoire du Hametz, de la Matzah, de la génération des élèves et de notre génération. Comment revenir, nous, génération qui baignons dans les sagesses extérieures. Et avec le Hametz et la Matzah, le Hametz des sagesses extérieures qui amènent l'orgueil. Et la Matzah, on l'a souvent évoqué un peu partout, au moment de Pessah, on en parle beaucoup. La Matzah qui ramène à l'humilité. Et donc, ça, il n'a pas évoqué ici. La notion d'humilité par rapport à la Matzah. Et donc, je me suis dit, tiens, mais peut-être qu'avec l'humilité, c'est ça qui va nous faire revenir à cette Nekouda cette qualité de juif, de pureté. Et il va l'évoquer peut-être plus tard, je ne sais pas.
Non, vous avez raison. Effectivement, le mot matzah est employé uniquement ici pour la lutte, pour la dispute.
Et oui, ça je ne connaissais pas. C'est un truc pour moi, je ne savais pas.
Oui, mais, mais pour ce qui est de du chametz, ça je pense que c'est très clair. Il y a une liaison entre le chametz et l'orgueil, et la pensée philosophique et l'orgueil. C'est-à-dire il y a un orgueil implicite dans toute pensée philosophique, parce que l'homme a la prétention d'avoir la clé de la compréhension du monde. Et donc, effectivement, si on met en opposition au chametz la matzah dans le sens de l'humilité, ça cadre tout à fait. Disons que, pour notre génération, oublier les sagesses extérieures est absolument inconcevable. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est comment rétablir la hiérarchie intérieure. C'est-à-dire, il est important de comprendre que la Yirat Shamaim, la liaison à la tradition prophétique, c'est ça, la colonne vertébrale de notre identité, et que la sagesse extérieure est périphérique. Elle est extérieure. À partir du moment où on comprend ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, non seulement on n'a pas à craindre l'extérieur, on peut même aller éventuellement le sanctifier et le purifier. Et je vois que Gabriel Lévy également aurait quelque chose à dire, donc allez-y.
On jongle ici avec des notions qui sont quand même complexes. J'aimerais m'assurer d'avoir bien compris.
Oui.
Alors, si je comprends, il y a donc un rapport entre la simcha et la ira.
Oui.
C'est deux notions qui sont a priori contradictoires, mais finalement complémentaires d'une certaine façon. Si j'ai bien compris, ça serait même la simcha qui provoque la ira. Alors, j'aimerais juste revenir sur la définition de la simcha du Rav Etan Fison. Il avait expliqué que la simcha, c'était en fait en réalité un état de contentement, c'est-à-dire comme un verre qui est plein. Et il avait dit Ezeu Ashir à sa mère Vereko, c'est-à-dire quelqu'un qui se contente. Donc est-ce que c'est finalement cet état de contentement matériel qui peut provoquer qui peut permettre de percevoir les valeurs spirituelles, comme vous l'avez expliqué, la définition de l'erreur.
Alors, pour tout vous dire, je pense qu'il n'y a jamais de contentement matériel. Il y a une expression des Chachamim, Yesh lo mané rotze matayim. C'est-à-dire, quand vous avez 100 zouz, vous en voulez 200. Et donc, le contentement est toujours psychologique. C'est-à-dire, je suis satisfait ou pas satisfait de la situation. C'est une décision intérieure. Maintenant, pour ce qui est de du rapport entre Ira et Simcha, vous avez tout à fait raison, la crainte et la joie sont non seulement deux choses différentes, elles sont antithétiques. Quand il y a de la joie, je ne peux pas avoir la crainte. Quand je suis dans la crainte, je ne peux pas avoir la joie. Il y a une exception à cela. C'est quand je suis face au Créateur. Parce que cette situation dans laquelle je suis face au Créateur me permet à la fois je suis donc dans la joie, puisque je rencontre la source de ma vie. Rencontrer la source de sa vie, c'est toujours une source de joie. Mais c'est ça qui va introduire en moi la crainte, parce que je suis jugé par rapport aux valeurs auxquelles je suis sensible. C'est un peu ce qui se passe, par exemple, le jour de Rosh Hashanah, où il y a à la fois la joie et le tremblement. De même, ce que disent les Chachamim, « Ivdut Hashem b'simcha, Ivdut Hashem b'ira ». Voilà. Pour ce qui est de Yitzhak qui a levé la main, alors je suis tout
oui. Oui, bonjour Rav. C'était par rapport à la question de tout à l'heure, parce que moi j'entends beaucoup qu'on est à une génération qui a effectivement un potentiel important de Géoula, mais qu'en même temps, on le voit d'ailleurs au quotidien, qu'il y a un niveau d'impureté très très élevé. Alors comment on peut expliquer cette apparente contradiction ?
En principe, notre génération a, du point de vue de la halakha, le statut du tinok shenishba, c'est-à-dire de l'enfant capturé. Or, l'enfant capturé, le tinok shenishba, est dispensé des mitzvot. Donc, on ne peut pas juger la génération par rapport à l'accomplissement du Shulchan Aruch. Par contre, on voit qu'il y a une soif d'idéal. Cette soif d'idéal se traduit également parfois par un désespoir. Et c'est ça la grandeur de notre génération. Or, il n'y a rien de plus impur que de se tromper. Parfois, j'entends des discours dans le genre « Notre génération qui vit un esterpanime, un voilement de la face de Dieu ». Comment est-ce qu'on peut parler d'une chose pareille alors que Dieu révèle sa face à travers l'État d'Israël ? Notre génération n'a pas un potentiel de Géoula. Elle vit la Géoula déjà, depuis 1948.
Merci beaucoup.
Kacha. Et M. Ben Saïd ?
On va finir avec ça. De M. Ben Saïd. Une dernière question.
On ne vous entend pas.
Ah, moi je vois ça. M. Ben Saïd, on ne vous entend pas.
Votre micro est fermé, probablement.
Mais un problème technique, je pense, de votre côté.
Bon, eh bien, en tout cas, l'intention de poser une question est tout à fait louable. Et
c'est déjà un plaisir. Oui. On l'entend.
Ah, on vous entend ? Pas du tout. Moi, j'entends rien du tout chez M. Ben Saïd.
Non, on a entendu le rire de quelqu'un d'autre.
C'est bon, oui, ça. Effectivement.
Non, M. Ben Saïd, on ne vous entend pas.
Bon, écoutez, mais... il y a ici quelqu'un qui dit « Yitzhak, dans la continuation de ce qu'a dit le Rav, je te conseille de lire le Mahamar du Chafetz Chaim qui répond à la question dans Sefaria, machin. » Ah, ben voilà, dans Tzipita Lishua. Très bien. Voilà. Bon, eh bien, chers amis, c'est un plaisir de continuer notre étude. Et on continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem. Shalom, shalom.